Merci d'écouter Inter, 19h21.
France Inter.
Le 18-20 ce soir sur la confiance et la défiance que suscitent les médias. C'est le quotidien La Croix qui scrute depuis des années la relation entre les producteurs d'informations au sens large et l'ensemble du public, de la radio, de la télé, de la presse écrite et désormais d'Internet. En 2017, la défiance règne, elle est au plus haut, même si elle se distribue inégalement entre les différents médias. Alors affrontons cette défiance, essayons de voir quels en sont les ressorts, comment rétablir le dialogue avec le public. Le téléphone sonne, c'est fait pour ça. Vous avez la parole jusqu'à 20h.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
Et vous pouvez nous joindre via Twitter avec le mot-clé Telson, par courrier électronique franceinter.fr et au standard 01 45 24 7000. Bonsoir Anne-Laure.
Oui, bonsoir.
Et bienvenue, vous ouvrez ce téléphone sonne, nous vous écoutons.
Oui, en fait, je voulais intervenir. J'étais un petit peu interpellée par la thématique de votre émission. Alors je ne vous dirai pas de quel bord politique je suis, mais je m'informe par un abonnement que j'ai à Libération, donc j'ai mon journal tous les matins dans la boîte à lettres, je lis Le Canard Enchaîné et j'écoute France Inter, et je considère que je suis quelqu'un de plutôt très bien informé. J'ai donc trois sources que je recoupe, et je pense que les gens qui aujourd'hui en France ont de la défiance par rapport au journalisme, aux médias, sont des gens qui doivent aussi s'interroger sur la façon dont ils consomment l'information et sur les sources qui consultent. Je ne lis aucun gratuit, et je sais pourquoi. Je pense qu'il faut que les Français qui aient de la défiance vis-à-vis du journalisme aient aussi un petit peu défiance à l'égard du monde.
Vous regardez la télé, Anne-Laure, ou
non,
pas ?
Non, je ne regarde plus la télévision, en fait. Je pense que l'image pollue beaucoup, et la radio, donc je vous écoute beaucoup, je pense que la radio et la presse écrite convoque exclusivement l'oreille une attention forcée qui n'est pas polluée par l'image et de fait implique une rigueur du vocabulaire, une exigence de la qualité de l'information que moi je retrouve tout à fait dans Libération, dans Le Canard Enchaîné, dans France Inter et moi j'ai vraiment l'impression d'être quand même plutôt très bien informée. Donc que les gens qui nourrissent une défiance à l'égard des médias se posent eux-mêmes la question de savoir comment ils s'informent.
Merci beaucoup Anne-Laure pour cette question d'ouverture. Pour vous répondre ici, Guillaume Goubert, directeur de La Croix, bonsoir.
Bonsoir.
Jean-Marc Four, directeur de la rédaction de France Inter, bonsoir patron.
Bonsoir à tous.
Céline Pigalle, directrice de la rédaction de BFM TV, bonsoir Céline.
Bonsoir.
Et Samuel Laurent, journaliste au Monde, responsable de cette partie du site du Monde qui s'appelle Les Décodeurs. Qui veut répondre à la question d'ouverture d'Anne-Laure ? Croisez les sources, croisez les médias et vous serez bien informé. Guillaume Goubert.
Oui, je veux bien répondre d'abord pour remercier cette auditrice de consommer autant de médias. C'est quelque chose de réjouissant, effectivement. Elle achète deux journaux. C'est pas si fréquent par les temps qui courent. Donc, je la salue et je la remercie. Je pense qu'il y a une part de vérité dans sa réponse. C'est-à-dire que, malheureusement, beaucoup de personnes se déclarent défiantes dans les médias, mais ne les consomment pas du tout. Et vivent avec des idées qui ne sont pas, comment dire, qui ne confrontent pas à une consommation précise des médias. Alors, je vais pas dire que nos médias sont irréprochables. Loin de là. Nous faisons certainement, je le pense, beaucoup de bêtises. Mais, je pense que la plupart d'entre nous avons quand même à cœur de les corriger quand nous en prenons conscience. Et la consommation régulière des médias, précisément, permet de créer une relation de confiance.
Et la multiplicité des sources, Samuel Laurent aussi, il faut s'informer un peu partout, c'est ça, pour
oui, je pense que de toute
façon, composer son panier.
C'est une règle de base de croiser ses sources pour les journalistes comme pour les lecteurs ou les auditeurs ou les téléspectateurs, j'ai envie de dire. Vous n'êtes jamais aussi bien informé que si vous vous informez à plusieurs sources et à plusieurs médias, voire même à plusieurs médias qui ont des points de vue différents. Ça peut être intéressant aussi. Après, effectivement, cette auditrice, on ne peut que saluer lui dire bravo. Malheureusement, on sait que ce n'est pas la majorité de l'opinion sur les médias et qu'il y a sans doute des questions que nous, il faut qu'on se pose aussi. C'est-à-dire, pourquoi on en arrive à un tel niveau de défiance et pourquoi ça ne monte jamais, ça ne remonte jamais.
Vous avez quelques éléments de réponse, puisque vous avez posé la question.
Je ne sais pas si j'ai des éléments de réponse. Non, malheureusement, je n'ai pas forcément. On essaye, nous, à notre petit niveau décodeur, de faire des choses différemment. Je pense qu'il y a pas mal de dispositifs qui peuvent agacer les gens. Il y a peut-être beaucoup d'éditorialistes qu'on revoit beaucoup, qui sont beaucoup dans les mêmes émissions. Il y a sans doute aussi une opinion qui elle-même a peut-être plus envie de choses radicales que ce que les journalistes peuvent proposer. On en discutait un peu avec Céline Pigalle avant l'émission. Je pense qu'il y a effectivement une époque qui est peut-être plus au radicalisme et nous les médias incarnons peut-être quelque chose de plus modéré qui du coup est d'autant moins toléré que l'époque est radicale.
Céline Pigalle, Jean-Marc Four.
Alors pour commencer,
Si on considère que l'image n'est pas une source d'information et qu'on choisit de pas regarder la télé, c'est une bonne solution parce que ça évite d'en dire du mal.
Donc à choisir, normalement,
je
oui.
préfère ça. Et pourquoi pas d'ailleurs ? Au fond, tous les choix sont possibles. Il faut en effet à la fois trouver des sources auxquelles on a envie de faire confiance parce que c'est le maître mot de toute notre histoire, c'est comment regagner cette confiance. Il faut certainement les croiser. Et peut-être qu'en filigrane, il y avait autre chose aussi dans le témoignage de cette auditrice qui me tient beaucoup à cœur, c'est que pour faire du bon journalisme, il faut beaucoup de journalistes. Il faut des journalistes nombreux, qualifiés, rémunérés dignement. Enfin, tout un tas de choses qui sont plus tout à fait aussi évidentes dans un contexte d'hyper-concurrence où on a tendance plutôt à multiplier les supports sans forcément y additionner le nombre juste de journalistes.
Jean-Marc Four.
La difficulté, moi, que je soulèverais est un peu différente. C'est-à-dire que vous avez toute une partie de la population qui accède aux médias professionnels et aux journalistes professionnels et à leurs informations et qui les critiquent. C'est de bonne aloi. J'ai envie de dire, c'est normal. Et on doit entendre ça. Nous, on doit entendre ça. Mais vous avez aussi désormais toute une partie de la population qui est totalement coupée de ce journalisme professionnel et qui ne croit plus via des blogs, des sites, etc., que dans des informations qui relèvent de la propagande voire du mensonge complet,
simple,
mais qui
ouais.
croient en cela. Et nous, on ne sait plus accéder à cette partie de la population. C'est un énorme défi pour nous, très compliqué.
Comment vous faites, Samuel Laurent ? Vous êtes en première ligne sur ce front-là de l'information, de la désinformation. Enfin, on peut prendre tous les termes qu'on veut.
Ben là, donc, on vient de lancer un outil aujourd'hui qui s'appelle Décodex, qui est un outil qui permet de, qui est un moteur de recherche en fait et une base de données qui qualifie des sites et qui notamment vous avertit quand vous allez sur un site qui diffuse des fausses nouvelles ou qui est un site de propagande. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que contrairement à ce qu'on pourrait penser nous, journalistes et peut-être gens qui ont fait des études supérieures ou qui sont très informés, c'est pas évident pour tout le monde de se repérer sur Internet, c'est pas évident pour tout le monde de savoir ce que c'est qu'une source, de savoir ce que c'est qu'un article de journal et en quoi il est plus sérieux qu'un blogueur qui va donner son avis et qui a tendance un peu à tout mélanger effectivement, le tout sur fond de défiance des médias tels que de toute façon, les médias mentent par principe donc il ne faut pas les écouter. Donc l'idée de cet outil, c'est ça, mais c'est effectivement, on espère poser notre petite pierre là-dedans et dans ce débat-là, on est assez lucide sur le fait que Jean-Marc a raison, il y a une partie de la population qui nous déteste, que non seulement on ne convainc plus, mais qui en plus nous déteste.
Mais qui vient au clash quand même,
absolument.
Je vous suis sur Internet, qui vient au clash, qui croise le fer, qui vous insulte, donc il y a de la détestation, il y a un dialogue impossible, mais en même temps, il y a une rencontre sur Internet entre ces deux publics, quoi.
Il y a quelque chose d'un peu schizophrène, parce que de fait, ils nous détestent, mais ils reprennent les infos de médias, en général, ils ne les créent pas, les infos, donc ils ne vont pas eux-mêmes sortir dans la rue, faire des enquêtes, des reportages. Ils reprennent des articles qui vont dans leur sens, tout en étant en permanence sur le complot des médias de la presse. Mmh. Ce qui est très intéressant là-dedans, c'est à l'extrême droite notamment, il y a une théorie qui s'appelle la réinformation, qui est poussée par un monsieur qui s'appelle Jean-Yves Le Gallou, qui est un des fondateurs du Front National, qui vise explicitement à ça, à dire il faut décrédibiliser les médias pour installer nos idées et nos propres médias en fait. Et c'est un peu effectivement ce qui se passe, il y a une bascule à l'extrême droite.
La parole à François au Standard. Bonsoir, bienvenue.
Oui, bonjour, enchanté pour la très bonne qualité de vos émissions, là, oui, que j'écoute depuis 40 ans.
Merci, on attend la bonne claque, là, maintenant, que vous nous avez remercié.
Voilà, merci, oui. je suis un peu historien amateur, et puis je constate qu'effectivement, là, on peut beaucoup douter. Je pense à l'affaire Gazaran, quand il y avait les gaz de schiste, là. Ils nous avaient montré à la télévision des robinets où il y avait de l'eau qui sortait, et puis le gars allumait le robinet, c'était du gaz qui sortait comme ça. Je pense aussi à l'Irak quand ils ont fait les armes de destruction massive qui n'ont pas existé. Mmh. Et je pense que la radio, en fait, c'est le plus pur média. Parce que la télévision et la photographie, c'est extrêmement facile à trafiquer, surtout avec les moyens modernes. Mmh. Et d'ailleurs, quand on regarde bien sur Internet et tout, il y a beaucoup de choses qui sont des fois fausses. Mmh. Mais moi, j'écoute beaucoup la radio, j'écoute notamment les ondes courtes. Et sur les ondes courtes, on apprend des choses très intéressantes. Par exemple, l'affaire Fillon, j'en ai entendu parler depuis le mois de septembre, octobre. J'entends parler de ça sur les ondes courtes. C'est des médias qui sont très loin. Et en fait, c'est...
Ben vous m'apprenez quelque chose, François. Je ne connaissais pas l'existence de ces médias alternatifs sur les ondes courtes. Merci d'avoir posé une question sur les photos, les images. J'imagine qu'on vous retourne souvent l'idée que vous pouvez manipuler les images alors que vous êtes en direct sur BFM quasiment 24 heures sur 24. Comment vous faites pour les manipuler ?
D'abord, ce que j'ai envie de dire, c'est que manipuler de l'information, tout le monde peut manipuler. Vous pouvez manipuler du son, vous pouvez manipuler des textes, vous pouvez couper, choisir une notation particulière dans un article. Enfin, tout malheureusement est manipulable. D'ailleurs, de ce point de vue-là, la notion de direct, si on voulait pousser à l'extrême, évidemment, on pourrait manipuler aussi. C'est bien ça notre enjeu. C'est que il faut rétablir, il faut obtenir que les gens nous croient. Et ils disent des choses contradictoires à ce sujet. Ils nous disent à la fois dans le baromètre de la Croix, je regarde de moins en moins la télévision. Pour les chaînes d'information, on continue, je les regarde moins désormais. On a vu une poussée constante de l'audience des chaînes d'information en continu. Il y a désormais 4 chaînes d'information en continu nationales qui se consacrent à l'actualité nationale. Et chacune a pu trouver un espace plus ou moins important. Et BFM TV, à la faveur de l'arrivée de 2 nouvelles, n'a cessé de continuer à progresser. Donc, voyez comment, à la fois, je crois qu'en réalité, il y a de la confiance. Et il y a une chose qui, moi, m'avait absolument frappée cet été. Il y avait une rumeur qui circulait sur le fait qu'un attentat s'était produit à Saint-Jean-les-Pins. Et on n'arrivait pas à vérifier cette information. Et les gens appelaient à BFM TV en se disant, si ça existe, ils le sauront. Ce qui était une marque de confiance incroyable dans cette marque info. Et pourtant, il y a ce type de commentaires sur les images nous trompent. Donc voyez comment tout ça est ambivalent et comment c'est difficile de se départir de cette idée.
Jean-Marc Four, Guillaume Goubert.
2 choses. D'abord, il nous faut balayer devant notre porte. C'est-à-dire que parfois, oui, on se trompe. Parce que vous voyez, on est comme tout le monde. Hein. C'est comme dans tous les métiers. Des fois, on se gourre. Voilà. Et je dirais que dans ce métier-là, on se trompe aujourd'hui. Quand on se trompe le plus souvent, c'est par manque de temps. C'est parce qu'on n'a pas le temps de vérifier. Voilà. C'est la cause principale des erreurs que l'on peut commettre. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il citait un exemple, François, dans les exemples qu'il citait, il y avait les armes de destruction massive. Alors, si je puis me permettre, c'est un mauvais exemple parce que précisément, il se trouve que votre serviteur était correspondant à Londres au moment de l'histoire de l'Irak et de Saddam Hussein, etc. Et les armes de destruction massive, c'est un mensonge politique. C'est typiquement un mensonge politique que la presse a mis au jour. C'est la presse, la BBC en l'occurrence, qui a dévoilé que tout ça était un montage
des
absolu.
Bidons, ouais.
Donc, dans ce cas de figure, c'est précisément la presse qui a permis que l'on découvre là où il y avait le mensonge.
Guillaume Goubert.
Non, je voulais un petit peu dans le même sens dire que pour les médias professionnels, on peut parfois être manipulé, mais on est très rarement, enfin moi je ne connais pas d'exemple autour de moi de médias manipulateurs parmi, en tout cas ceux qui sont autour de
cette table. Et au passage, quel serait notre intérêt?
Mais oui,
c'est en cirer la branche sur laquelle nous sommes assis. Donc,
en revanche, il peut arriver parfois qu'on se laisse avoir par des manipulations, oui, et qu'on ne réagisse pas assez vite, qu'on ne décèle pas. Bon, il y a la célèbre histoire du charnier de Timisoara, pour prendre un exemple relativement ancien maintenant, où les médias n'ont pas décelé suffisamment vite qu'ils étaient face à une manipulation.
Mais ça peut être, et là le sujet prend une ampleur différente et une couleur différente sur Internet. Samuel Laurent retweetait une photo qui suscite l'indignation. Je pense, je l'ai faite l'erreur moi-même, hein, à la photo de l'écran avec les noms de passagers d'un vol Air France pour New York le week-end dernier, disant que ces passagers-là avaient été sortis à cause des nouvelles lois voulues par Donald Trump. Bon, bah, c'était faux. J'ai retweeté, comme on dit, hein, donc j'ai contribué à propager une fausse information.
Je pense que les réseaux sociaux ont ceci de problématique, effectivement c'est instantané, donc vous voyez quelque chose, et ensuite ça fait appel à un ressort qui est l'émotion, et l'émotion c'est généralement pas ce qui favorise la réflexion. Et c'est très facile de cliquer sur un bouton, en un clic, voilà, vous avez retweeté, c'est parce que ça vous indigne ou parce que ça vous a fait rire. Moi ça m'est arrivé aussi de me faire avoir par des choses que je trouvais drôles, qui en fait étaient fausses. Et ça arrive à tout le monde. Et le problème qu'on a, c'est effectivement un problème de temps. Et c'est-à-dire un problème aussi d'être sur les réseaux sociaux comme des journalistes. Et moi-même, je me force, hein, je me fais violence très souvent pour me dire, non, maintenant je ne retweete jamais rien que je n'ai pas lu. Vous savez, ça aussi, ça vous arrive.
Bien sûr, on retweete le titre.
Vous retweetez le titre parce que vous le trouvez sympa, puis vous lisez pas, et en fait dedans, bah ça se trouve, non, ça vous plaisait pas. Donc maintenant, je me force à vérifier ce que je retweete, à vérifier les infos des autres, et après à jouer un peu ce rôle de vigie qui peut être très agaçant parfois, j'imagine, pour certaines personnes, parce que ce qui arrive aussi souvent, c'est très humain, c'est que les gens, quand vous leur dites mais c'était faux, ils vous disent oui, bon, mais c'est pas très très grave, parce que ça aurait pu être vrai. Ça, c'est vraiment la réflexion classique, oui, mais ça aurait pu être vrai. Et ça aurait pu être vrai quelque part. La mesure de Trump, elle était en place, on aurait pu trouver des gens, effectivement, qui auraient, voilà. Mais bon, c'était faux. Et c'est vrai qu'on vit dans une époque aussi, alors ce qu'on appelle la post-vérité, qui est un concept qui est très discutable, mais où je pense que c'est compliqué aujourd'hui, de trouver d'établir des vérités, en fait, si on prend pas le temps, si on se contente, si on est dans l'instantané, finalement. La vérité, elle passe, on passe à autre chose, c'est pas grave, et tout le monde est dans une espèce de flux. Et peut-être que nous, journalistes, il faut qu'on apprenne à résister à ça et à maintenir nos réflexes professionnels. Quoi.
Céline Pigalle, puis Laura Maille au standard.
Cette notion-là, pour moi, est très importante. C'est-à-dire que chacun des journalistes qui tweete, d'abord, n'oublie jamais qu'il ne tweete plus du tout à son titre personnel, mais au nom aussi du titre qu'il représente, et qu'il ait pour son compte Twitter le même respect que pour sa pratique journalistique habituelle. ça paraît comme ça. Au début des réseaux sociaux, on a tous fait des bêtises. Mais aujourd'hui, c'est une telle caisse de résonance. Enfin, le président américain lui-même utilise beaucoup ce réseau social. Donc, on voit à quel point c'est devenu une agora. Il faut absolument s'appliquer des règles, finalement, déontologiques identiques à celles qu'on utilise dans le reste de notre activité.
Ce qui consiste à ralentir à l'extrême dans un système médiatique qui ne cesse d'accélérer. Donc, on est pile au milieu d'une zone d'inconfort. Laura Maille, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Merci. Je voulais partager avec les confrères, parce que je suis moi-même journaliste, plutôt sur le terrain d'habitude, la réflexion sur les réseaux sociaux, parce que je pense que ça nous est tous arrivé de ne pas seulement retweeter de l'info, mais d'en produire maintenant sur les réseaux sociaux. Donc, quand on est sur le terrain ou quand on observe quelque chose, on va produire nous-mêmes l'information. Et ça change complètement le rapport à la vérité, à la crédibilité, parce qu'avant, c'était le fait de parler dans le poste, en fait, hein, qui actait la crédibilité du journaliste. Maintenant, c'est sur nos épaules un petit peu que repose le fait de décider qu'une information est suffisamment crédible pour être diffusée. Et c'est une horizontalité qui nous rend assez vulnérables, finalement, parce qu'on n'est plus sous le parapluie de la rédaction. On est immédiatement en direct avec le public. Alors, parfois, c'est top parce qu'on a des nouvelles sources, on a des informations qu'on n'aurait pas pu glaner sans Twitter, clairement. Mais d'un autre côté, ça nous rend vulnérables aux soupçons et aussi à la manipulation de l'information qu'on produit. Donc je voulais savoir ce que les confrères en pensaient.
Vous êtes journaliste indépendante, Laura Maille ?
Oui, je suis moi plutôt sur les zones de conflit pour la presse écrite et en plus pour des mensuels. Donc c'est vraiment de l'information lente, normalement. Complètement paradoxale avec mon utilisation de Twitter, justement.
Merci pour cette question. Alors, il y a beaucoup de choses. Hein. La contestation de la légitimité des journalistes. Avant, il suffisait de parler pour produire une parole légitime. Ça n'est plus le cas. La vulnérabilité de ce fait des journalistes. Qui veut dire un mot, Céline Pigalle ?
Dans la suite de la réflexion qu'on peut mener sur comment utiliser son compte Twitter, il y a une autre chose, à mon avis, qu'il faut qu'on se demande toujours. C'est pourquoi je publie sur Twitter quelque chose qu'éventuellement je ne dirais pas à l'antenne ? Quelle est la raison de ça ? Peut-être pas tout à fait de la même manière, peut-être pas tout à fait sous la même forme, mais finalement tout ça est désormais connecté et il n'y a pas de raison d'utiliser les choses. Alors là, en l'occurrence, il y a peut-être une histoire de temporalité, pouvoir exprimer des choses tout de suite, mais dont on se dit, si elles sont sur Twitter, il faudrait qu'elles soient parfois dans le papier écrit ou bien à l'antenne si on parle de la télévision. Et donc, on voit bien aussi comment nous sommes en train d'apprivoiser ces usages et comment ils doivent être réfléchis collectivement dans les rédactions. On a fait des erreurs, il faut maintenant les corriger, il faut vraiment prendre ces outils en main et travailler ensemble sur ces sujets.
Et puis, il y a le problème donc, de la légitimité, qui ne concerne pas que la presse d'ailleurs. Hein. La crise de la légitimité traverse d'autres institutions. Guillaume Goubert ?
Dans le témoignage qu'on vient d'entendre, je pense qu'il y a un point qui est important à souligner, c'est l'effet de, je prends un grand mot, mais de désintermédiation. C'est-à-dire que, traditionnellement, dans notre métier, on ramène de l'information et on a des interlocuteurs avant diffusion de l'information, en quelque sorte, qui nous disent, t'es sûr de ton coup, qui, si c'est de l'écrit comme pour moi, relise l'article, etc., éventuellement font des vérifications. Il y a d'ailleurs, à cet égard, Internet est un outil fabuleux pour faire des vérifications. Maintenant, avec les outils de type réseaux sociaux, eh ben, les informations peuvent être tout de suite lancées dans la nature sans aucune forme de validation. Et je pense que nous courons tous, notre consoeur, et nous, médias institués, nous courons beaucoup, beaucoup de risques. Et on parle depuis tout à l'heure beaucoup du temps, je pense qu'il faudrait qu'on apprenne à prendre un tout petit peu plus de temps dans le traitement d'informations.
Jean-Marc Four.
Je vais faire le gars optimiste sur ce coup-là, c'est-à-dire que je vais renverser la perspective de Laura Maille. Désintermédiation, c'est exactement ça, hein, les réseaux sociaux. Alors, il y a un risque, effectivement, ça met le journaliste en tant qu'individu d'une certaine manière en première ligne. Et d'un autre côté, ça donne une possibilité, c'est-à-dire que je pense que le journaliste en tant qu'individu est en train de devenir, pour certains d'entre eux en tout cas, une sorte de marque quasi indépendante du média. Et peut-être que cela peut aussi permettre de renouer le contact avec des gens qui ont coupé avec le média en tant qu'organe officiel, passez-moi l'expression, mais qui en revanche sont prêts peut-être à entendre ou à écouter ce que dit tel ou tel journaliste.
Samuel Laurent.
Oui, je pense que c'est très vrai. Il y a une dimension, on s'en moquait à une époque en parlant de personal branding et qu'on déforme en personal branding, pardon. Je vais la faire quand même.
Ouais, il fallait la faire.
Mais c'est vrai qu'il y a une dimension où, en fait, on est en première ligne et on est soi-même et on est face à son audience. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui est nouveau. Il y a 10 ans, 20 ans, vous aviez, au pire, vous aviez un courrier des lecteurs quand les gens n'étaient pas contents. Ou un coup de fil si vraiment ils étaient énervés et qu'ils arrivaient à arriver jusqu'à vous. Mmh. Maintenant, non, vous les avez en direct sur Twitter. Et vous avez du coup des groupes constitués. Alors, c'est vrai pour notamment l'extrême droite qui peut être très agressive. Mais enfin, il y a plein d'autres groupes qui peuvent être très agressif, vous écrivez un papier sur quelqu'un, en général, vous avez sa communauté qui va venir vous le dire, enfin si elle n'est pas contente, qui va venir vous le dire de manière assez véhémente, et ça peut être très 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 pénible, et pour le coup, je suis bien placé pour en parler, c'est mon cas, ça peut être assez dur, et après c'est quand même intéressant parce que vous avez aussi un feedback des lecteurs en temps réel, et c'est-à-dire que ça vous évite aussi un effet de bulle, le fameux effet de bulle dont on parlait, là au moins vous avez des, voilà, vous avez des gens qui vous vous parlent de leur réception de votre production. Quoi.
Céline Pigalle, puis Pascal au standard.
Sur ce sujet, ce qui est formidable quand même, c'est qu'on a un retour quasi immédiat sur ce qu'on produit. Alors, il y a malheureusement beaucoup d'insultes, beaucoup de choses effectivement très véhémentes, mais au milieu de tout ça, il y a aussi un retour immédiat et une possibilité de dialogue finalement qui est nouvelle et qui est puissante. Mmh.
Pascal, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue.
Oui, merci. Merci pour votre émission.
Merci à vous.
Le Monde Diplomatique a publié il y a déjà assez longtemps une carte des médias français que chaque auditeur de France Inter peut consulter sur Internet, c'est disponible. Et elle indique que les principaux médias français appartiennent aux principales fortunes françaises, que ce soit Bouygues, Bolloré, Dassault, Picasso, Niel, etc. Et par exemple, 100% des opérateurs téléphoniques, par exemple, qui ont besoin de l'État pour avoir une licence téléphonique, Bouygues, Free, SFR, sont propriétaires de médias majeurs dans le pays. Donc, est-ce que, par exemple, là, c'est les affaires récentes qui sortent par le Canard Enchaîné, qui est un des quasi seuls médias français indépendants, est-ce qu'une loi interdisant à tout groupe industriel qui dépend d'autorisation de l'État pour avoir une activité commerciale, d'être propriétaire d'un média, que ce soit interdit pour Bouygues, qui a besoin de l'État pour avoir une licence Bouygues Télécom, d'être propriétaire de TF1, LCI, etc.
Bien compris, Pascal. La parole à Samuel Laurent.
Je crois que c'était une proposition de François Bayrou, non, si je dis pas de bêtises. Oui, il avait fait cette proposition-là il y a quelques
journaliste
années.
Au Monde appartenant à Xavier Niel, Mathieu Pigasse et Pierre Berger.
Tout à fait. Alors, c'est une question qu'on entend très souvent, et c'est une question qui est légitime, et je comprends qu'on la pose. Maintenant, je trouve qu'il y a une espèce de diabolisation de ça, les médias, ils ont des actionnaires, ils en ont dans le monde entier. Le New York Times a des actionnaires, le Washington Post a des actionnaires. Ça n'a jamais empêché des médias de sortir des affaires. Nous, on a sorti les Panama Papers l'an dernier, dans lesquels on mettait en cause un certain nombre de grandes fortunes françaises, dans lesquels on mettait en cause des industriels, des banques, des gens comme ça, malgré nos actionnaires. Nos actionnaires, on a un pacte de non-intervention, ils ne peuvent pas se mêler de la vie de la rédaction. Vous n'êtes pas obligé de me croire, évidemment, quand je vous dis ça. Moi, je vous dis qu'en bientôt 9 ans au monde, jamais je n'ai eu la moindre pression sur mon travail de la part d'un actionnaire. Là aussi, vous n'êtes pas obligé de me croire. Après, qu'il y ait des effets d'autocensure, qu'il y ait des effets induits, qu'il y ait des effets comme ça, c'est possible.
La vision du monde est façonnée aussi. Oui, c'est une critique qu'on peut lire.
Que je peux entendre.
Il y a
maintenant
un biais, du coup.
Quand on est dans un média de service public, il y a toujours le biais de dire vous êtes au service de l'État, donc forcément. Je trouve qu'il y a une
schizophrénie. Non, on est au service du public.
Du public, pardon. Mais avec nos impôts.
Oui, exactement. Ma redevance, comme on dit sur Twitter.
Il y a une dimension, quand même, je trouve, de schizophrénie où on sait plus ce que les gens veulent pour les médias. Vous voulez des médias qui ne soient gratuits, qui n'aient pas de pub, qui soient indépendants, qui n'aient pas d'actionnaires. C'est compliqué quand même. On va pas devenir des associations et faire ça bénévolement. C'est un peu.
Céline Pigalle, propriété BFM TV, propriété de Drahi et compagnie SFR. Hein, voilà.
Mais moi, je vais vous parler d'un autre exemple récent qui démontre que parfois, des journalistes courageux qui ont le sentiment que leur actionnaire ne leur permettra pas de travailler dans de bonnes conditions décident de s'en aller, et ils ont été quasiment une centaine à e-télé. Donc, comme en toute circonstance, il y a des jeux de pouvoir et de contre-pouvoir, et les contre-pouvoirs peuvent s'exercer. Et on a vu avec quelle maestria, avec quel courage, une rédaction tout entière, presque, a décidé de jeter l'éponge.
On a vu comment on pouvait décimer une rédaction aussi, si on prend l'autre côté du manche. Jean-Marc Four.
Bon, d'abord, point, ici, on est très très libre. Hein. La liberté éditoriale est totale sur cette antenne. Je peux vous le certifier, première chose. Deuxième chose, je pense qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il ne faut pas essentialiser, quoi. C'est-à-dire, il n'y a que des cas particuliers, je crois. Il n'y a que des cas particuliers de patron, entre guillemets, interventionniste ou pas interventionniste, je ne vais pas vous donner des exemples, mais tout le monde les a à l'esprit. Enfin voilà, ce qui est devenu Itélie, aujourd'hui, on voit bien, pose problème parce qu'il y a un patron qui est interventionniste, directement ou indirectement, enfin il l'est. Et puis après, vous avez des journalistes aussi, qui sont des cas particuliers. Vous avez des journalistes qui disent « Ah, halte là, moi je ne ferai pas ça », et puis il y en a d'autres qui le font moins. Bon voilà, donc c'est aussi une histoire d'individu. C'est, on ne peut pas mettre tout le monde comme ça dans le même sac.
Guillaume Goubert, la croix appartient à qui ?
La croix appartient à une congrégation religieuse qui s'appelle les Assomptionnistes, qui a fondé ce groupe il y a plus de 120 ans.
On a jamais... Et l'actionnaire est tatillon ou pas ?
L'actionnaire nous fait confiance, l'actionnaire est attentif et de temps en temps vient nous poser des questions, il y a un dialogue. Mais c'est pas de l'ordre des pressions, c'est de l'ordre d'exercer intelligemment votre propre responsabilité. Moi je pense que si les actionnaires étaient aussi influents qu'on le dit, il y a quand même beaucoup de choses qui ne sortiraient pas dans les médias. Je pense qu'il faut pas avoir une vision trop simpliste, comme l'a dit Jean-Marc. Je trouve que beaucoup de journalistes font très bien leur métier dans toutes sortes de médias, y compris des médias où on n'imaginerait pas qu'ils auraient cette liberté. En même temps, ceux qui trouvent que ceux à qui ça pose problème, comme notre auditeur, eh bien, il y a des médias qui sont indépendants.
Qui vivent de médias par l'abonnement des lecteurs.
Maintenant, il y a de nouvelles formes de financement qui permettent de faire des choses tout à fait intéressantes. Internet permet des choses à un coût relativement faible. Espérons que vont naître de nouveaux médias.
De plus en plus dur de censurer quelque chose, de le trapper, Céline Pigalle. Ça ressort tout de suite.
Ce qu'il faut dire aussi, c'est que
le coût de la censure est infiniment supérieur pour des patrons de presse au coût de la liberté, si on parle cyniquement.
Ouais, il y a un jeu du chat et de la souris qui a toujours existé et qui, sans doute, aujourd'hui est plus facile pour la souris.
Bien sûr. On est en ligne avec Patricia. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Je voudrais interroger les médias sur le rôle et la responsabilité qui est la leur dans l'éducation à la liberté de la presse, à l'esprit critique pour les ados. Mmh. À côté des éducateurs habituels que sont les parents ou l'école, à titre personnel, je suis la mère de deux grands ados. J'ai trouvé, quand ils étaient plus jeunes, assez difficile de les alerter, de les inviter à s'interroger sur qui parle.
Comment ils s'informent, Patricia, comment ils s'informent, vos enfants?
Alors maintenant, ils ont grandi. Sur Twitter, il y a des fils des grands médias traditionnels. Ils s'y sont abonnés. Ils m'ont fait connaître l'initiative du Monde sur Snapchat, qui les amène au monde papier ou sur Internet, peu importe. Et je trouve que c'est très, très intéressant. Combini aussi, mais quand ils étaient beaucoup plus jeunes, j'ai eu du mal, moi, à lutter contre l'opinion qui est exprimée dans des blogs, sur YouTube, et expliquer qu'il y a un point de vue de celui qui parle et qu'il faut comprendre le point de vue de celui qui parle pour savoir si on prend ou pas l'info telle qu'elle.
Merci beaucoup, Patricia. Donc, la question cruciale de mettre le pied à l'étrier aux plus jeunes lecteurs et aux plus jeunes lectrices, enfin aux plus jeunes citoyens, tout simplement consommateurs de médias. Jean-Marc Four, comment faire, demander Patricia?
Énorme sujet, enjeu absolument colossal. Je pense que, alors il y a les initiatives isolées, on en a quelques-unes, Le Monde on en a nous, France Inter, etc. Mais il y a plus globalement un déficit énorme là-dessus. C'est-à-dire que moi je suis toujours sidéré de voir que au niveau éducatif on s'empaille sur le fait de savoir si Clovis ceci et Jeanne d'Arc cela. Mais que l'éducation aux médias, bon, oui, si on a le temps, enfin bon, il y a quelques organismes qui essayent de faire des choses, mais c'est tout petit par rapport à la taille de l'enjeu. Donc là, il y aura un énorme truc à faire. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous, pour ce qu'on peut faire, nous, il y a en tout cas la nécessité de franchir cette césure digitale. C'est-à-dire qu'on voit bien que les moins de 30-35 ans accèdent à l'information désormais majoritairement via Internet. Par exemple, ils accèdent à l'information de France Inter via Facebook et un copain m'a donné le lien d'un article ou d'une chronique ou d'une vidéo et je vais arriver à France Inter ou à tout autre média par ce biais-là. Voilà. Donc il faut que nous, impérativement, on investisse tous ces supports tiers, entre guillemets, qu'on y soit très présent pour accéder à cette population de moins de 35 ans.
C'est ce que vous avez fait au Monde, Samuel Laurent ?
C'est ce qu'on a fait au Monde. Les décodeurs, c'est un peu une idée aussi pour raccrocher avec des populations plus jeunes et plus et dans des codes peut-être plus Internet.
Bon, que vous disent vos statistiques longtemps. Pour ce qui est de la lecture de la section décodeurs ? Public beaucoup plus jeune que pour le reste du site.
Plus jeune, pas nécessairement aussi jeune qu'on pouvait se l'imaginer au départ. On est plutôt sur des 25-35 ans, pour tout vous dire. Mais oui, public plus jeune quand même. Et je pense qu'il y a encore des efforts à faire. Je pense que ce qui est très vrai, c'est qu'effectivement, les jeunes, paradoxalement, sont très informés, mais par des choses qui sont très inégales. C'est-à-dire que vous avez des youtubeurs qui peuvent faire des choses très bien, très qualifiées, etc. Vous en avez d'autres qui vont donner leur avis de manière plus ou moins fiable. Mais ils bénéficient de cette aura de nouveauté et de virginité, quelque part, qui les rend beaucoup plus crédibles que les vilains journalistes qui sont de toutes les collusions, de tous les... Enfin, on en a déjà parlé. Et je pense qu'une autre chose qui est importante et qui n'est pas à négliger, c'est que l'éducation, on parle beaucoup des jeunes. Moi, je pense que l'éducation aux médias, et notamment aux nouveaux médias, elle devrait se faire à tous les âges de la vie. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui arrivent aussi sur Internet, qui arrivent sur les réseaux sociaux, qui ont 40, 50, 60 ans, qui ne sont pas familiers de ça, et qui, quelque part, n'ont pas forcément les codes ou l'habitude de recevoir ces infos-là, de savoir faire le tri, etc. Donc, je pense que c'est aussi une question d'adulte.
Est-ce que vous avez les statistiques d'âge pour le site du Monde en général et le papier, le print, le journal?
Alors, le print, je ne veux pas dire de bêtises, ça doit être autour de 60 ans, mais je crois que c'est les abonnés, ça. Donc, j'imagine qu'en kiosque, on n'a pas forcément de chiffres. Et sur le site, je ne sais plus.
C'est pas tellement plus jeune.
Non, c'est pas tellement plus jeune, c'est 45 ans, je crois, quelque
voilà,
chose comme
ça. Voilà, c'est ça.
C'est des chiffres vieux, que je vous sors.
Il y a vraiment une coupure générationnelle. C'est pas nouveau média, ancien média, je suis vieux, je lis le papier, je suis jeune, je vais sur Internet. Non, non, c'est la coupure, elle traverse même les nouveaux médias, Guillaume Goubert.
Oui, effectivement. D'ailleurs, le baromètre qu'on publie montre, effectivement, comme le disait Jean-Marc, qu'il y a une césure formidable autour de 35 ans et que les moins de 35 ans, maintenant, ont une consommation qui est essentiellement une consommation numérique et consomme extrêmement peu de papier. Alors, ce qui, évidemment, d'un point de vue économique, pour des journaux comme Le Monde ou La Croix, est un sujet de préoccupation important. Mais en même temps, il est tout à fait possible d'inventer des choses, notamment des combinaisons de papier, d'abonnement papier, d'abonnement numérique, qui permettent quand même de maintenir une économie relativement solide. Mais la consommation, effectivement, moi, je suis moins inquiet de la consommation numérique, enfin, moins inquiet. L'inquiétude ne sert pas à grand chose. Moins préoccupé, intrigué par la consommation numérique que parce qu'on décrit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que au lieu d'avoir la présentation d'un ensemble d'informations hiérarchisées, organisées les unes par rapport aux autres, etc., du plus important au moins important, de la France, l'étranger, etc., maintenant, ça marche papier par papier, sujet par sujet, et ça, on lâche ça dans la nature, et ça circule, on sait pas très bien comment, via les réseaux sociaux. Et là, on a encore beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à découvrir, et je trouve que il faut qu'on défende cette idée que un média, c'est pas seulement une information qui vous arrive comme ça par hasard. On a à proposer, avec notre identité, celle du Monde, celle de BFM, celle de France Inter, celle de La Croix, un ensemble d'informations organisées d'une certaine façon, dans un certain esprit, avec certaines convictions, etc. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne à défendre dans un monde qui a énormément changé.
Céline? Sur l'éducation aux médias, je pense que BFM est très regardé par les jeunes. Ouais.
Absolument, c'est sans doute la chaîne info qui l'est le plus. Mais je vais vous dire, à ce sujet-là, ça serait plutôt une expérience personnelle que j'aurais envie de vous livrer. Et on voit comment les enfants partent dans toutes sortes de directions, dans un paysage complètement éclaté, où finalement la marque a peu d'importance, la marque référente a très peu d'importance, et où en effet, il y a un besoin absolu de leur dire... Toute information circulant n'est pas équivalente, toutes ne sont pas sourcées de la même manière, et pour l'instant, ils évoluent quand même dans un environnement où d'ailleurs on pourrait dire aussi que le mélange d'humour et d'information est largement mélangé, et ils ne font pas toujours la part de ce qui est de l'ironie, de ce qui est de la satire et de ce qui est une réalité. Et donc là, il y a en effet un chantier considérable.
Charlotte, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez de Perpignan, vous avez la parole.
Alors, moi, d'abord, je voulais vous remercier parce que je suis insomniaque et donc, à partir de 3-4 heures du matin, j'écoute des rediffusions très, très intéressantes. Donc, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et puis, autre chose, donc, je voulais demander comment les journalistes, que ce soit radio ou télé, j'ai une petite anecdote à propos de la télé à vous soumettre, peuvent rester créatifs par rapport aux dépêches AFP qui tombent, disons, d'une façon standard pour tout le monde. Et donc, la petite anecdote, c'est que mon compagnon était à l'étage, moi j'étais au rez-de-chaussée, et c'était l'heure des informations, et j'entendais, parce qu'il est un peu sourd, donc j'entendais très fort, la même information répétée, comme ça, plusieurs fois, 4-5 fois, et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il répète toujours la même chose? Il me dit, c'est rien, je zappe.
Ah oui, d'accord. Donc la même information était partout.
Là, il y avait quelque chose qui se passait qui n'était pas trop, pas disons créatif, mais qui avait quand même un manque. Voilà.
Merci. Merci oui. Charlotte pour cette question. On va essayer d'y répondre. C'est une vraie énorme question. Quelle part de créativité journalistique par rapport au fil de dépêche AFP notamment qui est commun à l'ensemble des rédactions en général. Jean-Marc Four.
Il y a deux questions, je trouve. Il y a d'une part l'AFP et de l'autre côté ce qu'on peut appeler l'effet perroquet, si vous voulez, enfin tout le monde qui répète la même chose. Alors la deuxième critique est assez juste, c'est-à-dire qu'il y a une tendance médiatique pour aller vite à effectivement ce que chacun regarde le voisin et fasse un petit peu la même chose que le voisin et au bout du compte finisse par perdre un peu de créativité. C'est une critique qui est fondée, voilà, elle est une part de vérité. Sur l'AFP, je suis pas tout à fait d'accord, c'est-à-dire que pour le coup, et ça n'est pas faire injure au travail de l'agence France Presse que de le dire, on est aujourd'hui en réalité beaucoup moins dépendant de l'agence France Presse qu'on a été il y a quelques années. On a multiplié les sources, les sources propres, les nôtres, on travaille par nous-mêmes, voilà, tout simplement. Et puis les sources, grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux qui permettent des contacts directs, etc. Donc voilà, il y a deux sujets, à mon avis.
Il y a quand même un rôle déclenchant Guillaume qui est très Goubert. Important.
Oui, c'est vrai. Mais à mon avis, moins important, moins crucial qu'il y a quelques années.
Même dans le déclenchement des vagues d'informations.
Oui. Vraiment
ah, oui. Et aussi pour tout dire, parce qu'on s'est aperçu, notamment dans les chaînes d'information en continu, qu'on était tellement au devant de l'actualité et qu'on attendait tellement de nous de réagir dans l'instant qu'il fallait absolument qu'on ait nos propres sources et qu'on ne soit pas dépendant des agences et qu'on soit en capacité... La séquence malheureuse et terrible des attentats du mois de janvier 2015 a montré ça. On ne pouvait pas attendre d'être d'aucune manière soutenu par les agents. Il fallait être nous-mêmes et par ailleurs autonomes, indépendants, en capacité de dire ça oui, ça non.
Samuel Laurent.
La question, elle a été beaucoup posée pour les sites web. Hein, où c'est vrai que vous avez pas mal de sites web qui fonctionnent avec un fil AFP et qui se contentent de recopier des dépêches. Moi, ce que je peux dire, c'est que il y a un modèle économique derrière qui est pas simple pour les sites. C'est-à-dire quand vous avez deux permanents pour vous tenir votre fil actu, forcément, ils copient-collent de l'AFP. Donc c'est une question avant tout de ça, de qualité de moyens que vous mettez. Au Monde, on essaye de s'éloigner, y compris dans notre traitement de l'actu le plus ce qu'on appelle le desk, c'est-à-dire vraiment la partie article très rapide. On essaye de les sourcer, de les enrichir, d'ajouter des choses. Et après, il y a des choses plus original. Enfin, on essaye avec des codeurs de faire des choses où on n'est pas du tout collé à l'AFP. On s'en sert assez peu ou comme confirmation. Et je pense qu'après, oui, il y a un effet un peu standard, enfin, qui existait, qui est un peu moins vrai aujourd'hui. Mais c'est vrai que vous cherchiez des infos sur Internet il y a quelques années, vous aviez 60 fois la même dépêche sur 60 sites, quoi. Et c'était un peu caricatural. Je trouve que le web aussi a changé à ce niveau-là. Il y a eu pas mal de pure players, il y a pas mal de choses. Donc j'ai tendance à trouver que ça s'améliore quand même.
Céline Pigalle.
Et surtout, je crois que le fait que tout le monde dise la même chose a fait qu'aujourd'hui, ceux qui sortent du lot, ce sont précisément ceux qui assument une ligne éditoriale. Ceux qui essayent de faire entendre une musique, d'avoir une personnalité, d'avoir un visage. Voilà, je crois que c'est vraiment par là, en réalité, qu'on tire son épingle du jeu et qu'on existe.
La parole à Jean-Sébastien de Marseille, rapidement s'il vous plaît.
Bonsoir.
Bonsoir.
Ça fait plaisir d'être à l'antenne. J'avais une double remarque à faire. Je passais sur la première assez vite. Vous l'avez évoqué, la course au direct et à la réaction immédiate, à mon avis, est très néfaste pour la crédibilité des médias. Mais bon, les gens l'exigent. On voit souvent des gens sur les réseaux s'offusquer quand un média ne réagit pas dans la demi-heure à un événement dont ils ont entendu parler par ailleurs, etc. Ça laisse pas le temps de recouper les informations, etc. C'est pas voilà, c'est un phénomène. Je sais pas s'il est possible de l'enrayer, mais qui nuit à mon avis à la crédibilité des médias. Ma deuxième remarque était pour élargir un petit peu la chose. Les médias et les consommateurs d'information, enfin les consommateurs d'information ont une part de responsabilité dans le sens où il manque de culture souvent sur l'histoire, la géopolitique, le fonctionnement des institutions, etc. On a une construction du monde un petit peu fantasmée comme ça, qui ne repose pas sur des connaissances très solides et très fouillées. Et quand certains médias sortent une information qui colle pas à ce schéma qu'on aime imaginer, plutôt que de mettre en doute sa conception des choses, on accuse tel journal ou telle radio, tel journaliste de raconter quelque chose qui ne nous caresse pas dans le sens du poil.
Merci Jean-Sébastien, il est 19h59 et 40 secondes, je dois rendre l'antenne pour le journal, c'est pas une question d'immédiateté mais de respect.
Je voulais juste dire Jean-Sébastien a raison.
Voilà, bah écoutez, voilà, c'était une bonne conclusion Jean-Marc Four. On en reste là, merci à tous les quatre, merci à vous auditeurs d'Inter, très nombreux au standard encore ce soir.